Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La Révolution française et l'étranger.
Tous les habitants d'un pays ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc. Mais tous n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Les femmes, les étrangers, ne doivent point influer activement sur la chose publique. Sieyès, préliminaire de la Constitution, 21 juillet 1789.
On entendait l'abbé Sieyès, mais Condorcet promet en 1790 que la France offrira au monde un spectacle nouveau, celui d'une nation vraiment libre, respectant partout, en tout temps, les droits qui sont les mêmes pour tous les hommes. D'un côté donc, la fraternité illimitée jusqu'à l'universalité, mais de l'autre, il faut bien fonder la citoyenneté. La Constituante établit un texte fondamental où on voit généralement l'origine de notre droit du sol. Cependant, il n'est pas tout à fait aussi ouvert qu'on le croit. Plus tard, la Convention se rêvera en congrès du monde entier, mais elle finira par exclure ses membres étrangers et par multiplier les textes discriminatoires. Au point, l'été 1793, d'imaginer de faire porter aux étrangers patriotes un ruban tricolore marqué du mot « hospitalité ». Dans le grand désordre de la terreur qui vient, l'application de ces textes sera aussi incohérente que leur rédaction. D'ailleurs, sait-on précisément définir l'étranger? C'est aussi bien le noble, le suspect, que l'anglais et le vendéen que l'anglais. Il convient donc d'interroger à la fois les actes posés par les responsables successifs de la Révolution. On pourra toujours expliquer qu'ils résultent de la contrainte des circonstances, de la guerre sur tous les fronts, mais aussi leur discours creusé dès le départ de profondes contradictions.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Guillaume Mazot, bonjour.
Bonjour.
Ah, il y a une de vos activités qui m'attire, la Sorbonne à l'école.
Oui, la Sorbonne à l'école, c'est une association composée essentiellement de jeunes doctorants et puis de quelques enseignants. Et on a à cœur de partager notre savoir, d'aller dans les établissements scolaires, notamment primaires, pour aller faire des cours, des visites scolaires.
Ben vous allez faire cet exercice avec nous. Un autre exercice que vous aimez, la collaboration avec les hommes de théâtre. On sait que Joël Pommerat a commencé les représentations d'un grand cycle consacré à 1789.
Oui, ça s'appelle « Ça ira, fin de Louis » pour Louis XVI. En ce moment, ils sont en tournée un peu dans toute la France. Et puis, en septembre prochain, ils reviendront à Nanterre. C'est vraiment l'idée de faire une pièce qui parle de la Révolution et qui remette un petit peu sur la table tous les débats et toutes les questions que se sont posées ces femmes et ces hommes il y a plus de 200 ans.
Mais le débat sur l'étranger, il apparaît dans cette pièce parce qu'il apparaît assez peu dans la bibliographie. Un livre du vieux maître Mathiez, assez marqué par le nationalisme et le robespierrisme, c'était en 1918, un livre de Sophie Vaniche il y a une petite vingtaine d'années. Peu de travaux, visibles en tout cas.
Oui, alors ils se sont quand même un peu multipliés ces dernières années. Dans la pièce, on en parle un peu au moment où, finalement, ceux qui sont appelés à se réunir dans les assemblées électorales disent « Mais finalement, il n'y a pas tout le monde ici, il n'y a pas les pauvres, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les domestiques, il n'y a pas les étrangers, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et les étrangers, le problème, c'est que ça veut dire beaucoup de choses à cette époque-là, beaucoup de choses très différentes.
On peut employer quand même d'abord le mot « fraternité » et « hospitalité », si vous voulez bien, pour parler de 89-90, la politique des bras ouverts. Que résume le propos de Condorcet que je citais.
Oui, là, il faut vraiment replacer la Révolution dans son contexte. La Révolution, c'est vraiment à cette époque-là la première fois qu'un ensemble d'individus qui choisit de faire une communauté, mais une communauté la plus ouverte possible, qui repose sur un contrat, c'est-à-dire le choix d'être ensemble. Donc c'est une communauté qui ne repose pas sur une identité, encore moins une identité nationale, ça n'existe pas comme ça à cette époque-là, mais en gros, on fait le choix d'adhérer à la Constitution et puis à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et tous ceux qui font ce choix-là peuvent devenir citoyens français.
Un mot-clé aussi, au début, c'est le mot « fédération ». Voici un extrait de « L'Anglaise et le Duc », le film de Romère, où une lady venue d'outre-Manche et qui est très proche du duc d'Orléans participe à sa façon à la grande fête du 14 juillet 1790.
Je suis une étrangère, mais il n'empêche que depuis deux nuits, je loge ici des fédérés. Venu pour célébrer la fête. Vous le savez, les idées nouvelles, si elles sont appliquées avec modération par les autorités légitimes, trouvent en moi une approbatrice décidée.
Grâce, je vous conjure, rentrez dans votre pays. Il est temps encore. Je crains que les événements ne se précipitent. Je ne veux pas vous voir en péril. Votre absence me sera cruelle, mais partez.
L'avertissement du futur Philippe Égalité à son ami. On sait que Éric Rohmer n'est pas un franc partisan des révolutionnaires. On verra tout à l'heure, dans la suite de l'émission, ce qu'il est advenu à son personnage. Mais là, on est encore dans le moment idéal. Vous parliez de la Constitution. Alors ça, c'est l'année d'après, 1791. Qu'est-ce qu'il y est dit du droit du sol? Attention, hein, vous avancez sur un terrain mouvant, politiquement.
Oui. Eh bien, cette Constitution, qui reprend d'ailleurs tous les débats qu'il y a eu depuis 1789 sur qui fait partie de la cité, hein, eh bien, elle est extrêmement ouverte. Ça montre une confiance dans l'autre qui nous est très exotique aujourd'hui, hein, pour beaucoup de raisons. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement devenir citoyen, hein, il suffit d'habiter en France, de prêter serment, de faire le serment civique, hein, de prêter serment à la Constitution.
Ah bah c'est pas rien ça.
Et oui, et pour pouvoir devenir citoyen, donc c'est très rapide.
Mais objection, votre honneur. Oui. Il ne faut pas avoir des immeubles, un établissement d'agriculture, oui, si on n'est pas né sur le sol.
Bon, alors ça, c'est une précision intéressante. Effectivement, il faut éventuellement aussi travailler, hein, sur le sol français et avoir des biens, puisque la notion de la citoyenneté, à cette époque-là, elle repose sur l'idée qu'on doit être utile aussi à la communauté. C'est ce qui en fait la limite un petit peu de cette intégration, c'est-à-dire que tous ceux qu'on estime moins utiles ou un peu plus dépendants aussi, hein, dans leur tête, eh bien, on les exclut des droits politiques. Je pense aux femmes, aux domestiques, aux enfants, aux aliénés et aux étrangers.
De même que quand il s'agit de voter, il y a des citoyens actifs et des citoyens passifs.
Exactement.
Les citoyens actifs. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen passif ?
Alors, le citoyen passif, c'est quelqu'un qui a les droits civils, c'est-à-dire il est protégé par la Déclaration des droits de l'homme, il est libre, il est égal en droit avec les autres, la force publique doit le protéger, etc. Mais en même temps, il n'a pas le droit de participer activement aux choix politiques, c'est-à-dire il n'a pas le droit de vote en particulier.
Et il y a des étrangers qui peuvent se faire naturaliser et devenir seulement citoyens passifs ?
Alors, il y a des étrangers, qui peuvent se faire naturaliser s'ils ont particulièrement bien mérité de la patrie. Et puis, il faut préciser que pendant les États généraux, au moment où on choisit les députés aux États généraux, beaucoup d'étrangers peuvent participer aux assemblées électorales, puisqu'il suffit de payer la taille, un impôt, hein, pour pouvoir y participer. Donc, là encore, ça nous fait méditer, nous, aujourd'hui, hein, sur, finalement, cette énorme générosité, cette confiance et cette hospitalité. Hein, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps,
oui,
qu'on doit aux étrangers.
Objection, votre honneur. Il est prévu, article 6, la perte de la nationalité.
Oui.
Et la perte de la nationalité pour différents motifs, mais notamment pour condamnation à des peines infamantes jusqu'à réhabilitation.
Et oui, et ça montre que, c'est vrai, ça montre que au début de la Révolution, on considère que la communauté, elle est d'abord liée par un lien politique, un contrat. Et donc, on peut perdre la nationalité française si on fait allégeance à un prince étranger. Et on considère en France que, eh bien, c'est perdre son émancipation, c'est perdre sa liberté. Donc, on peut pas, du coup, continuer à faire partie de la communauté, puisque, finalement, on obéit à un tyran, un despote, etc. Et puis aussi, on perd sa nationalité. Le mot n'existe pas, hein, nationalité, à cette époque-là, mais on perd sa qualité de citoyen français si on a été déchu de ses droits civiques, c'est-à-dire si on a été condamné ou qu'on refuse la révolution. Ça s'appelle l'indignité nationale. On est mort civilement. On n'a plus de droits civils et donc on est en quelque sorte exclu de la communauté. Hein. C'est les débats qui reviennent aujourd'hui à l'occasion des débats sur la déchéance de nationalité.
Vous parlez des tyrans et des agents de l'étranger. La guerre est déclarée par l'Assemblée législative, officiellement par le roi Louis XVI, en 1792. Une fois la guerre venue, peut-on maintenir au cœur du pays ce principe d'hospitalité ?
Alors ça, c'est justement fondamental. Souvent, on dit que la Révolution, évidemment, a été très... finalement, a tenu un double discours. D'un côté, on accueille, de l'autre côté, on exclut. En fait, c'est pas tellement la Révolution le problème. Hein. Je sais que, depuis une vingtaine d'années, c'est... On déconstruit un peu toutes les idées de la Révolution, on s'en sépare. Hein. En réalité, le problème, c'est pas la Révolution, c'est la guerre. La guerre, aussi bien en France, mais qu'en Angleterre, c'est-à-dire des pays qui sont impliqués dans la guerre, à partir de 1793 surtout, accueillir des gens qui éventuellement sont des ennemis, de la nation ou qui combattent finalement sa propre nation, c'est un problème.
On va en venir à 1793, dans un moment après, mais quand la guerre est déclarée, au tout début, là, elle n'est pas déclarée à l'Angleterre et à la coalition, elle est déclarée à l'empereur d'Autriche, il y a déjà des émotions populaires, des émotions locales qui font suspecter l'étranger. Parce que c'est très important de regarder ce qui se passe localement.
Alors, oui, localement, c'est très important. Et ça, c'est dès le début de la Révolution française. En fait, l'étranger, c'est celui qui est extérieur à la communauté, celui qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne voit pas tous les jours. C'est aujourd'hui, dans les campagnes, on dit parfois le hors-un, celui qui fait pas partie du village. Et donc, c'est ça, ça commence là, hein, l'étranger. Et évidemment, la Révolution, avec les désordres qu'elle apporte, hein, évidemment, les migrations, surtout les déplacements de population, eh bien, elle fait peur dès l'été 89. Donc, l'étranger, il est assimilé souvent aux brigands, aux mendiants, aux errants, hein, dont on a peur depuis très longtemps. Et donc, même avant la guerre, oui, l'étranger, ça se colore déjà d'une petite connotation négative.
Et je vois que c'est en février 1992 que le passeport est clairement imposé pour les étrangers qui entrent ou qui sortent des villes.
Alors, et surtout, pendant que ceux qui rentrent et qui sortent du territoire, c'est à partir de mars 1793, c'est-à-dire au moment où on met en place la législation d'exception liée à la guerre.
Je sais que vous voulez en venir, alors que votre intention est de défendre certains aspects de la Révolution à l'année 93. Mais moi, maintenant, prends le parti inverse du vôtre. Je voulais vous faire raconter l'élection par 7 départements à la Convention. Nous sommes après la déclaration de guerre, en septembre 1992. Jean Jaurès, dans son Histoire socialiste de la Révolution française, qui vient d'être rééditée par les éditions sociales, insiste sur 2 personnages. Anacharsis Klotz, qu'il qualifie de banquier cosmopolite, et qui a été élu.
Oui, Anacharsis Klotz.
C'est un...
Il était très connu pendant la Révolution. Oui, c'est ça. Il était très riche. Il avait des réseaux internationaux. Et surtout, dès le début de la Révolution, il s'enthousiasme. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, les Anglais étaient enthousiastes par la Révolution française, les Américains aussi, etc. Et ça fait partie des gens qui militent pour essayer de propager dans toute l'Europe les valeurs de la Révolution. Dès 1789, il envisage même un moment de rattacher la rive gauche du Rhin à la France, puisque la France vivait... Enfin, les révolutionnaires français espéraient faire une sorte de patrie universelle. La patrie, c'était la terre de la liberté à l'époque. Ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui.
C'est l'orateur.
Où qu'elle soit. Hein.
C'est l'orateur, c'est son surnom, c'est du genre humain. Et puis, il en est un autre dont on va vous conter plus précisément l'élection. 4 départements l'ont choisi. Il s'appelle Thomas Paine. C'est un penseur très connu, américain, anglais. En tout cas, il est élu notamment dans le Pas-de-Calais, à Calais.
Notre amour pour l'humanité, pour la liberté, l'égalité, les ouvrages utiles qui sont sortis de votre cœur et de votre plume pour les défendre, ont déterminé notre choix. Venez augmenter le nombre des patriotes d'une assemblée qui doit fixer le sort d'un grand pays, et peut-être celui du genre humain. Les temps du bonheur que vous avez prédit aux nations sont arrivés. Venez, ne trompez pas notre attente.
Mon bonheur est immense, car elles sont tombées, les barrières qui séparaient les hommes libres sur tous les points du globe. Et qui semblaient attacher un patriote au sol qu'il avait vu naître, comme une plante est attachée par la nature au sol qui la nourrit.
Calais, septembre 1792, Jean Jaurès définit ainsi Thomas Paine. Il était pour la paix, le désarmement, le suffrage universel, l'éducation universelle, l'assurance universelle contre les risques de la vie.
Oui, Thomas Paine, c'était vraiment le symbole du héros patriote, cosmopolite, qui incarnait l'idée finalement qu'on pouvait défendre des droits. Les droits des gens, c'est-à-dire qui s'appliquaient à tous les êtres humains. Il avait participé à la Révolution américaine, écrit le plus célèbre pamphlet de la Révolution américaine, Le Sens commun, l'équivalent un peu de notre Qu'est-ce que le tiers-État de CIS. Donc il était vraiment... Et il a été élu député, oui, à la Convention nationale. Donc ça veut dire que, oui, des gens qui n'étaient pas citoyens français au départ le sont devenus et sont même devenus députés. Hein, c'est-à-dire, et quel rôle ? C'était la première fois que ça arrivait dans toute l'histoire, que le peuple souverain se fasse représenter.
Alors que l'Assemblée, c'est le corps de la nation.
Exactement.
Mais 1793 va se profiler, vous voulez y venir. Il est vrai que même dans des chansons anciennes du début de la Révolution, sur l'air de « il pleut bergère », il y avait déjà des accents très 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 martiaux.
Recourons aux armes, l'Empire est en danger. Dans ces moments de larmes, courons le dégager. Tout bouillant d'énergie, tout fier de nos succès. Courons à la patrie, que nous sommes les Français. Lancés dans la carrière de nos chefs belliqueux, d'une noble poussière couvrons-nous à leurs yeux, flamant de la victoire, de courage enflammé, pour voler à la gloire, naissant à tout armée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Guillaume Mazeaux, nous parlons de la Révolution française et l'étranger. Nous parvenons à l'année charnière 1793. La Convention siège sans cesse. Elle est le corps de la nation. Elle énonce la loi, mais c'est la communauté des citoyens qui fait la loi.
Oui, c'est ça.
Et ces citoyens, il y a peu d'étrangers parmi eux.
Alors, il y a peu d'étrangers parmi eux, mais pendant la, dans la Constitution de 1793, c'est la première fois qu'on permet à des étrangers de devenir si facilement citoyens. Il suffit d'habiter pendant un an sur le sol français et puis de faire le serment civique pour devenir citoyen français.
Oui, mais la Convention va définir la Constitution de 1793. Elle n'a jamais été appliquée. Elle est formidable, comme la Constitution de Staline en URSS, au grand temps de l'URSS.
Alors, je ne ferai pas du tout cette comparaison,
parce que non. Vous n'allez pas l'apprécier.
Alors, en réalité, cette période-là, elle est très intéressante. C'est ce qu'on a appelé la période de la terreur, parce que, justement, souvent on la condamne ou on la défend. Or, contrairement, je pense, à ce que dit Manuel Valls, expliquer, ça n'est pas excuser. Les sciences sociales, ça sert à ça, et l'histoire aussi, avec la sociologie. C'est-à-dire que ces révolutionnaires, en 1793, et oui, ils sont pris dans une guerre civile aussi. Et il doit faire des choix. Et il doit faire des choix très pragmatiques. Cette guerre, elle oblige à faire quoi? Eh bien, à distinguer qui est son ennemi et qui est son ami. Et la guerre civile, elle oblige aussi à distinguer, finalement, qui, éventuellement, se cache parmi les gens qui se disent citoyens et qui sont éventuellement contre-révolutionnaires.
Et alors, quand c'est le roi, dans la personne duquel se cache un ennemi de l'intérieur, premier choix drastique, le procès de Louis XVI. Donc, nous sommes au début de 93, et au moment où, à la tribune, les députés viennent dire explicitement leur choix.
Quelle est la peine que Louis, ci-devant roi des Français, a encouru? Fouché de la Loire inférieure.
La mort.
Thuriot de la Marne.
La mort.
Thomas Paine du Pas-de-Calais.
Je vote pour la réclusion de Louis jusqu'à la fin de la guerre. Et pour son bannissement perpétuel après la guerre.
Je demande la parole! Je demande la parole!
Je donne la parole au citoyen Marat.
Je soutiens que Thomas Paine ne peut voter sur cette question. Paine a voté contre la peine de mort parce qu'il est quaker.
J'ai voté contre la peine de mort pour des motifs moraux et d'intérêt public. Et pour moi, j'ai pour moi l'avantage d'une longue expérience. Il y a 20 ans à peu près que je me suis engagé dans la cause de la liberté en contribuant à la révolution des États-Unis d'Amérique. Mon anxiété pour la France est devenue aujourd'hui mon anxiété pour son honneur.
Paine est un étranger et les Français sont fous de laisser des étrangers vivre parmi eux. On devrait leur couper les oreilles, les laisser saigner quelques jours, puis leur couper la tête.
Bon, c'est une cristallisation de textes divers. Je ne sais pas si Penn a eu vraiment le temps d'expliquer sa position aussi longuement et si Marat a dit explicitement ce qui vient d'être dit, mais c'est une dramatique radio pleine de vertus que nous utilisons pour parler de Thomas Mann. Elle est signée Pierre Minet et elle date de 1971. Quand la guerre s'étend et que la guerre va aussi se jouer à l'intérieur avec la Vendée, printemps, été 93, naturellement, vous seriez à la place de Manuel Valls, vous feriez la même chose aujourd'hui, enregistrement, surveillance, au nom de la protection.
Oui, à partir du moment où la guerre éclate, en particulier contre l'Angleterre, et puis l'Espagne, on est déjà en guerre contre la Prusse, l'Autriche à ce moment-là, c'est-à-dire que toute l'Europe est en guerre contre la République française, une République fragile. Évidemment, il devient de plus en plus important pour la sécurité intérieure et la survie de la République de savoir qui est qui. Non seulement à l'intérieur de la République, mais aussi qui rentre et qui sort. Et de ce fait, il y a une crispation sur les étrangers. Et la fiction que vous avez d'ailleurs diffusée est vraiment intéressante parce que elle dit évidemment, avec les mots de la fiction, il y a de l'invention, mais elle dit quelque chose de profondément juste, c'est qu'on se demande finalement, est-ce que quelqu'un qui vient d'un pays qui fait la guerre à la France peut représenter le peuple français ? Voilà. Avec la meilleure volonté du monde, est-ce que c'est possible ? Et Payne, là, d'ailleurs, il est attaqué, non pas parce qu'il est citoyen américain, mais il est d'origine britannique. Et en particulier, ça va se focaliser sur les Anglais. Mais ce qu'il faut dire beaucoup, donc il y a toute une série de lois, notamment le 25 décembre 93, où notamment Robespierre tient un fameux discours dans lequel il assimile un peu les étrangers au peuple des tyrans. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose entre eux, les principes, affiché. Et le pragmatisme de ces gens qui doivent faire régner l'ordre public et tenir la République, faire tenir la République, bien, il y a quand même un hiatus qui est en train de se forger.
Oui, mais alors, les mesures pratiques, parce que vous parlez de décembre 93, mais dès le printemps, été 93, dans le plus grand désordre, tous les individus des nations avec lesquelles nous sommes en guerre, sauf ceux domiciliés en France avant 89 qui ont donné des preuves de civisme, sont tenus de sortir d'ici 8 jours. Et alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et les historiens de la Révolution racontent cela très peu. Et Jaurès lui-même n'en souffle le mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ruban tricolore que devraient porter les étrangers à qui on a donné le droit de rester ? Un ruban tricolore avec, il est vrai, marqué dessus, hospitalité.
Eh oui, ça c'est intéressant. À partir de mars 1793, les étrangers doivent aller au comité de surveillance, se faire enregistrer, et ils doivent avoir des déclarations, des témoignages de plusieurs de gens qu'ils connaissent dans leur quartier. Et à partir de ça, il a été imaginé que certains étrangers, donc qui auraient été finalement reconnus par leurs voisins, par leurs connaissances, comme des bons, comme des gens sans problème, puissent porter ce brassard. Mais donc évidemment, nous, ça nous fait penser à des choses horribles, éventuellement à des dans l'histoire, on pense à l'étoile jaune et tout ça. Évidemment, ça n'a rien à voir. La société du XVIIIe siècle, c'est une société du signe, où on se reconnaît avec des signes, y compris positifs, la cocarde, le bonnet, etc. Là, le brassard, c'est vraiment pour qu'ils ne soient pas gênés et inquiétés, c'est pour les protéger. Ce que je voulais dire aussi, c'est quand même, donc là encore, c'est pas tellement la révolution le problème, c'est la guerre à ce moment-là. Pourquoi ? Et parce que l'Angleterre fait exactement la même chose, et même avant la France. Dès le début du mois de février 1793, ils votent ce qu'on appelle l'Alliance Act, c'est-à-dire le décret sur les étrangers qui oblige les étrangers aussi arrivés récemment sur le sol britannique. Et oui, c'est la Révolution qui pose problème, c'est les immigrés français. Et éventuellement les Jacobins déguisés qui pourraient aller répandre la Révolution, à se faire enregistrer. Et ils sont surveillés, etc., etc. Donc il y a aussi la peur de la cinquième colonne jacobine. Donc on peut pas comprendre ce problème-là en se focalisant sur la terreur, mais en voyant que les révolutions créent des vagues de migration et évidemment des focalisations un peu parfois nauséabondes sur la question des étrangers et pas seulement en France.
Il faut qu'on retrouve le personnage de l'Anglaise et le Duc qu'on avait croisé au début de cette émission avec vous, Guillaume Mazot. Alors la situation de la Lady Anglaise devient de plus en plus difficile, bien qu'elle se présente comme amie de Fox. Et Fox, c'est l'adversaire de Pitt. Et Pitt, c'est le Premier ministre anglais, c'est l'adversaire, l'ennemi numéro un pour les Français. Ben, il n'empêche.
C'est certainement une boîte à cachette. Et ceci, qu'est-ce que c'est ?
Une lettre.
Je m'en doute, mais cachetée et point adressée à vous. Tôt, Monsieur Charles Fox, forme Sir...
Ça.
Godfrey Webster. Comment se trouve-t-elle dans votre possession ?
Elle m'a été expédiée de Naples.
Et pourquoi doit-elle passer par vous ?
Messire, vous devez savoir que Naples a été bloquée par la flotte française sous les ordres de l'amiral Latouche-Tréville. C'est le courrier de l'amiral qui me l'adresse.
Peu importe. Vous devez savoir, vous, citoyenne, que l'Angleterre est en guerre avec nous et qu'être en correspondance avec les ennemis de la République est un crime passible de la guillotine. Nous vous suspections depuis très longtemps. Voici la preuve irréfutable. Votre sœur va être vite réglée.
Mais que dites-vous? Monsieur Fox est votre ami. Il est en correspondance avec le comité de surveillance. Ne le confondez pas avec Monsieur Pitt. Le Premier ministre, votre ennemi juré, lui, c'est un libéral.
Le comité décidera. Citoyenne, grâce Georgina Elliott, au nom de la République, je vous arrête.
Et le sort de l'Anglaise aurait été encore plus brutal. Un peu plus tard, 1794, décret du 7 prairial en deux qui rejette dans les ténèbres extérieures les Anglais. Sophie Vanige dit, les Anglais, c'est vraiment les ennemis du genre humain, il n'y a pas pire, c'est l'égal des Vendéens.
Alors, ça montre à quel point la notion d'étranger, elle est plastique et floue. L'étranger, c'est le suspect. C'est celui qui est toujours soupçonné de ne pas adhérer aux valeurs de la Révolution et de comploter, contre la Révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, on est en guerre civile. La Révolution, c'est une guerre civile, à partir surtout du printemps 93, et que, de ce fait, distinguer qui est l'ennemi de la Révolution, ça peut être une question de survie, même pour vous, pour moi, si on se promène dans notre quartier, distinguer quel est le suspect, l'étranger, le contre-révolutionnaire, c'est important. Et donc, finalement, et les Anglais, ils incarnent, à un moment donné, beaucoup plus cette figure très négative. Pourquoi? Parce que, alors qu'ils ont plutôt salué au départ l'arrivée de la Révolution française, enfin le dernier pays à faire sa révolution au XVIIIe siècle, eux l'avaient fait dès le XVIIe siècle, très vite il va y avoir une francophobie, qui est une peur de la Révolution et de la peur de la diffusion de la Révolution. Et les Français, qui eux-mêmes aussi, depuis longtemps, entre désir d'Angleterre, amour de l'Angleterre et peur de l'Angleterre, eh bien, oui, ils vont désigner l'Angleterre, qui vraiment mène la guerre du point de vue financier et logistique, accueille les émigrés français comme vraiment l'ennemi du genre humain est presque coupable d'un crime de lèse-humanité. Pourquoi? Parce que lutter contre une république, une nation, qui ne veut que s'émanciper et être libre, à ce moment-là, c'est porter atteinte à tous les autres peuples dans le monde entier.
Merci à vous, Guillaume Mazot. Il y a quand même du bon dans la tradition anglaise, je ne sais de quand date cette loi, mais on peut pétitionner, demander un débat aux communes pour empêcher l'entrée sur le territoire britannique d'une personne qui prêche la haine. Et le malheureux Donald Trump est victime de cette procédure aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Frédéric Martin, Elinka Degulesco et Franck Olivard, avec à la technique Serge Viguier.